j'ai bien aimé votre émission sur Marvel, mais par contre, j'y comprends pas grand-chose. J'aimerais bien que vous fassiez une émission où ils expliquent les Quatre Fantastiques, Logan et compagnie. Moi, j'y comprends rien. Par contre, j'aime bien Jessica Jones, Luke Cage et compagnie.
Oui, bonjour, Blockbuster, c'est Philippe de Saint-Etienne. Je voudrais qu'il y ait une émission de Blockbuster sur Frédéric Sigrist, qui a réussi à amener quand même la culture des Blockbusters et des geeks sur France Inter. Voilà, bisous.
Quant à Prince, oui, voilà, c'est Prince, quoi. Allez, bonne journée, j'adore votre émission.
Vous avez laissé passer un message. Le gars dit, on dit pas Stephen King, mais on dit Stephen King. Et non, erreur, que ça soit écrit Stephen ou Stephen, on dit bien Stephen. C'est pas moi qui l'invente, c'est la langue anglaise qui me fait sacrément chier d'ailleurs. Bisous à tous.
Oui, bonjour, mais j'étais super content qu'il y ait une émission sur Prince, mais alors par contre, très déçu, en plus vous en avez parlé, moi ça fait des années que j'achète des Maxi 45 pour avoir des inédits, et là, que dalle, quoi, vous avez passé que les crimes et compagnie, refaites-en une avec des inédits, ce serait sympa. Merci, au revoir.
J'ai une question à poser, est-ce que Tim Burton a une parenté avec Richard Burton, ou avec Eric Burton, le chanteur des Animals, ou plus lointainement avec Didier Bourdon, et avec Maya d'Abeille peut-être, je sais pas.
Not to be.
Je suis d'une génération qu'on appelle, non sans une pointe de mépris, les enfants de la télé. Mais pour être tout à fait franc, je suis moins un enfant de la télé qu'un enfant
de Dorothée.
Dorothée, l'animatrice des programmes jeunesse qui a commencé à prendre ma destinée en main des récréas 2 et qui ne m'a relâché que quand mes hormones sont devenues ingérables. Dorothée a façonné l'homme que je suis aujourd'hui. Ceci explique cela, me diront certains. Vous vous rendez compte qu'avec Jackie, Ariane, Corbier, il lui est arrivé d'assurer 8 heures d'antenne chaque mercredi, à une époque où la télévision était autrement plus regardée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dorothée jouissait d'une tribune chaque jour auquel plus personne n'a eu accès depuis. Pensez à chaque fois que vous retrouvez face à un quadragénaire ou un quinquagénaire qu'il a peut-être été biberonné au club Dorothée. Et est-ce qu'on a vraiment envie de se faire opérer par un chirurgien qui a passé son enfance devant pas de pitié pour les croissants ? Pourtant, j'ai adoré faire partie de cette génération qui attendait avec trépidation chaque nouvel épisode d'Olive et Tom. Je chantais à tue-tête le générique de Claude Lombard. J'ai découvert les affres de l'amour avec Juliette Je t'aime ou Lucie, l'amour et rock'n'roll. J'ai une tendresse infinie pour le doublage foutraque de Nicky Larson. J'ai reproduit dans ma chambre les terribles coups de Ken le survivant, élève de l'école des couteaux de cuisine. J'ai appris le dépassement de soi en regardant Dragon Ball. Mais j'ai également appris qu'il ne fallait jamais baisser les bras face à une injustice. J'ai appris qu'il fallait sans cesse se relever, même quand le rapport de force semble trop inégal, qu'il fallait des fois se battre moins pour soi que pour les autres. Et ça, je l'ai appris, non pas en lisant Karl Marx ou la Bible, mais en regardant les chevaliers du Zodiac.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
La légende veut que les chevaliers apparaissent toujours lorsque les forces du mal tentent de s'imposer au monde. Il était une fois un groupe de jeunes gens qui protégeaient Athéna, la déesse de la guerre. On les appelait les chevaliers d'Athéna et ils combattaient toujours sans armes. On raconte que d'un revers de la main, ils pouvaient déchirer le ciel. Et que, d'un seul coup de pied, ils pouvaient entrouvrir la terre. Et aujourd'hui, un nouveau groupe de chevaliers, armés du même courage et de la même puissance, est arrivé sur la terre.
Depuis 3 saisons de Blockbuster, lorsque j'évoque les sujets que l'on pourrait aborder dans l'émission avec les internautes, une question revient extrêmement souvent. Quand est-ce que vous allez parler des chevaliers du Zodiac, Saint Seiya pour les puristes ? En effet, même si dans le monde du manga et de l'animation, Dragon Ball et One Piece constituent les deux piliers du shonen mondialisé, le shonen étant un type de manga plus spécifiquement destiné aux jeunes garçons, on aurait tendance à oublier qu'en 1988, la série d'animation Star des mercredis, c'était les chevaliers du Zodiac. Fruit de l'imagination du mangaka Masami Kurumada, ces jeunes garçons filiformes aux armures magnifiques, totem de leur constellation, sont très vite devenus les stars des cours de récré. Pour revenir sur ce phénomène qui continue d'exister via des œuvres supervisées de loin par Masami Kurumada ou par le marché de la figurine de collection, j'ai à mes côtés Mathieu Pinon. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste spécialisé dans la pop culture japonaise et auteur du livre Histoire du manga moderne de 1952 à 2020, publié aux éditions Yinis.
Tout à fait, coécrit avec Laurent Lefebvre, que je salue au passage.
Je le salue également. Avec nous également Elsa Gambin. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste indépendante pour des sujets de société, cinéma et séries et grande fan de Saint Seiya.
Exactement. Et je suis là pour dire que les shonen, non, ce n'est pas que pour les garçons.
Exactement. Mais on allait y venir, je le savais. Et enfin avec nous, Clément Leduc. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Spécialiste en manga et rédacteur pour le très très bon magazine Animeland.
C'est ça, exactement.
Alors ensemble, on reviendra sur la création des Chevaliers du Zodiaque, sur la carrière de Masami Kurumada, et en quoi ses œuvres précédentes étaient la matrice des Chevaliers. On tentera de comprendre ce qui a fait de Saint Seiya un animé singulier, on parlera bien évidemment de Shingo Araki, le caractère designer de génie à qui on doit également le look de Lady Oscar et Ulysse 31 entre autres. On parlera de cette introduction à la mythologie qui a constitué cette série pour beaucoup, et enfin on parlera du retour des Chevaliers du Zodiaque dans une nouvelle série diffusée sur Netflix, incessamment sous peu. Voilà, cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip, et à la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot, Arnaud Caillet et Florent Bujon. On est si
bien que Dorothée. Comment avez-vous eu l'idée d'inventer les Chevaliers du Zodiaque, s'il vous plaît?
Tout au début, j'ai voulu faire l'histoire des enfants qui faisaient de karaté, qui luttaient contre le mal. Mais c'était un petit peu banal. Alors, j'ai pensé ajouter la mythologie grecque et avec les dieux, mais je trouvais pas assez romantique. Et j'ai eu une idée de donner aux chevaliers une armure à l'image des signes zodiaques. Car je suis passionné moi-même par l'astrologie et je crois que grâce à ça, les chevaliers des zodiaques sont toujours mystérieux et romantiques.
On vient d'entendre une interview réalisée entre Dorothée, évidemment, hein, on ne la présente plus, et Masami Kurumada, qui démontre l'importance qu'avaient les Chevaliers du Zodiaque à l'époque, c'est-à-dire qu'on pouvait carrément prendre un morceau du Club Dorothée pour organiser, via le téléphone, une interview du créateur au Japon. Et alors, là, je me tourne vers Mathieu Pinon, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Masami Kurumada? Qui est-il?
On peut parler un petit peu de Masami Kurumada, donc c'est un mangaka. Qui a commencé ses armes dans le Shonen Jump, donc le magazine de Shueisha qui a été toujours le plus gros vendeur de manga, enfin tout au moins dans les magazines au Japon. Donc c'est un peu le baromètre pour connaître la santé du manga. Il a commencé à dessiner, enfin une des séries les plus connues qu'il a pu faire s'appelait Ring Nikakero, donc qui était une série de boxe de mémoire, avec donc des jeunes gens combatifs au sang bouillant.
C'est un style qu'on appelle le style Neketsu.
Le style Neketsu, ouais. Voilà, le Neketsu, c'est vraiment on est sur le dépassement de soi, on est sur le héros qui va se prendre un uppercut qui va finir au sol et qui à 9 secondes et 8 dixièmes va se relever chancelant avec d'un dernier souffle d'âme pour finalement gagner le match. Donc il a vraiment tout à fait retranscrit ce style Neketsu. Et puis après Rin Nikakero, il a commencé, ça marchait pas trop, hein, il faisait des petits bides. Et quand il a publié Saint Seiya dans le Jump, d'abord le magazine était publié, enfin le manga était publié en pré-magazine, puis ensuite en volume relié. Et dans la jaquette du volume relié, il y a toujours un petit mot que laisse le mangaka. Et là, il expliquait clairement à ses lecteurs que il s'était bien rendu compte que ces dernières années, il marchait pas trop. Et avec Saint Seiya, il voulait faire de la voix royale. Il voulait y aller là vraiment directement. On tape dans le vif et effectivement, il a fallu quelques tomes pour que les lecteurs se prennent au jeu. Et quand l'adaptation animée est arrivée, alors là, ça a été le raz-de-marée.
Il faut dire que dans Ring ni Kakero, son personnage, les personnages de boxeurs, utilisaient déjà des attaques flamboyantes avec des apparitions d'animaux derrière, voilà, parce que dans le style de dessin.
Voilà, le coup de poing du tigre contre, enfin, le crochet du tigre contre l'uppercut du dragon, c'était exactement ça. On sentait déjà les bases de Saint Seiya qui se dessinait.
Et il avait déjà aussi introduit cette idée de combat contre des créatures mythologiques. Il y avait toute une convocation d'autres mythologies dans Ring ni Kakero, si je ne m'abuse. Il y a même un moment donné où il se bat contre un représentant de Jésus.
Oui, mais ce qui est plus intéressant avec Saint Seiya comparé à Ring ni Kakero, c'est que Ring ni Kakero, bon bah, on a un ring, on va mettre des gars dessus, ils vont se taper, on a la bagarre, c'est cool. D'emblée, le cadre fait qu'on va avoir de la baston. Avec Saint Seiya, on est beaucoup plus sur un affrontement entre des systèmes de valeurs. Voilà, c'est quand on prend le premier arc scénaristique de toute la saga, qui est l'arc du sanctuaire, l'affrontement entre les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or se fait parce que les chevaliers d'or ont été dupés et ils sont persuadés de lutter pour la justice contre les chevaliers de bronze, alors qu'en fait c'est l'inverse. Et quand on va avoir des retournements de situation, on va se retrouver avec des combats où à la fin le chevalier de bronze est au sol, pisse littéralement le sang, et le chevalier d'or dehors qui fait « Ah oui, mais en fait, tu as gagné, parce que tu avais raison dans ce que tu faisais, c'est moi qui avais tort. »
Alors, avant d'aller plus loin, il faut préciser aux éditeurs qui ne connaissent pas du tout les chevaliers du Zodiac, parce que il y en a, hein. Les chevaliers, en fait, ce sont des jeunes gens qui ont été envoyés aux quatre coins du monde pour s'entraîner et devenir des chevaliers censés être les défenseurs de la déesse ou de la réincarnation de la déesse Athéna. Et à l'issue de cet entraînement, s'ils ont réussi, ils héritent d'une armure, voilà, totem d'une constellation, donc l'armure de Pégase, l'armure du dragon, l'armure d'Andromède. Et c'est ainsi que commence la série, et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des chevaliers de bronze, les héros de la série, mais il y a également des chevaliers d'argent, et la classe supérieure, les chevaliers d'or, qui représentent les 12 signes du zodiaque, taureau, bélier, gémeaux, etc. Et tous ces personnages, tous ces chevaliers, ont des caractéristiques et une personnalité propre, un passif, et le but de la série, c'est de les montrer se confronter. Et là, je vais demander donc à Clément Leduc, comment les Saint Seiya est passé d'un manga populaire à un animé international?
Ah ben déjà le character design adapté par Shingo Araki et Michi Himeno, qui est un tandem qui a marché depuis très longtemps.
C'est une dessinatrice.
C'est une dessinatrice Michi Himeno. C'est le tandem. Elle est indissociable de Shingo Araki. Ils ont bossé depuis très longtemps sur Goldorak, sur plein d'autres séries, mais voilà, pour les plus connus, je pense Goldorak, ça parlera.
Je pense que tu peux citer Ulysse 31.
Ulysse 31 aussi, évidemment, Lady Oscar.
Lady Oscar.
Il a travaillé aussi sur Goldorak.
Oui,
vous l'avez dit, en fait.
Oui.
Juste pour être sûr, j'aime bien répéter ce que les gens disent, comme ça j'ai l'air plus intelligent.
Et voilà, ils ont magnifié le dessin de Masami Kurumada, qui est un style à l'ancienne école de manga.
Très trapu, voilà. Très trapu.
Et qu'il n'a pas réussi à faire évoluer, mais ça n'enlève rien scénaristiquement à ce qu'il a fait. Et ce qui a vraiment également fait marcher la série, c'est aussi la musique. Seiji Yokohama, avec les mélopées de Kazuko Kawashima.
Une cantatrice.
Oui, une cantatrice qui faisait des loulouloulou, et voilà. Et je pense ça avec des thèmes toujours épiques, et voilà, on a eu une pléthore de CD à ce niveau-là. Et je pense que c'est tout ça qui a amené, avec des effets spéciaux... même le design des armures, ça a été amélioré dans le manga. Les armures sont très simples, en fait. C'est juste des petits bouts. Là, ils ont fait des vraies armures un peu lourdes, mais qui marchent, en fait. Et du coup,
Michi Himeno a introduit l'idée aussi de s'inspirer des tenues de certains guerriers grecs avec les jupettes et tout ça pour avoir quelque chose de plus harmonieux et qui s'accordait plus avec la silhouette longiligne de ces personnages. Parce que dans le manga d'origine, il y avait aussi une véritable volonté de Masami Kurumada de faire des personnages qui ne soient pas hyper musclés et qui soit androgyne vraiment parce qu'il avait envie d'avoir un shonen qui plaise aux garçons et aux filles.
Après, je ne sais pas si c'est une volonté propre, mais ça fait partie des codes du manga, en tout cas, d'avoir des personnages très différents, auxquels tout le monde peut s'identifier. Et en effet, le côté androgyne, qu'on retrouve particulièrement chez Shun d'Andromède, et je pense que les autres confirmeront, voilà, c'est un type... très classique, en fait, un stéréotype, même si c'est l'androgynité, c'est un stéréotype qu'il faut mettre en avant. Voilà. C'est alors progressiste, en fait.
On va continuer de parler de Saint Seiya, mais pour le moment, on écoute évidemment le générique de Saint Seiya en version originale, s'il vous plaît, parce que c'est Blockbuster. On écoute Pegasus Fantasy par le groupe Make Up. Pegasus Fantasy dans Blockbuster, évidemment. Hein, ça m'étonnerait que vous l'entendiez ailleurs sur France Inter.
Oui, casse cette pierre à main nue.
Je ne crois pas pouvoir la casser. Oh, ah, ah, ah.
Imbécile, tu es ici depuis déjà 3 ans et tu ne peux pas réussir quelque chose d'aussi facile. Écoute-moi. Les pierres sont composées d'atomes.
Hein?
Comme ton corps et comme le mien. Comme tout ce qui existe sur la Terre.
Hein?
Comme les étoiles qui brillent dans le ciel. Détruire quelque chose signifie détruire tous ces atomes. Est-ce que tu me comprends? Seyar, concentre ta puissance. Concentre ton esprit également. Concentre-les sur le point que tu vas frapper. Et sur ta main.
Oh! Oh!
On vient d'entendre Marine, le maître de Seyar, doublé en français par Virginie Ledieu, qui doublait également Saori Kido, qui doublait la princesse Freya, qui doublait Flamme, Mio, Mylène. Enfin voilà, vraisemblablement, c'était des doubleurs qui étaient extrêmement utilisés. Seiya adulte qui est doublé par Eric Legrand, qu'on retrouvera ensuite sur une autre série que beaucoup d'auditeurs doivent connaître, Dragon Ball Z, où il doublait Vegeta. Mais on va dire Vegeta, parce que je sais qu'après il dit « Ah, pourquoi vous dites Vegeta ?» Mais moi je dis Vegeta, c'est comme ça. Et alors pour revenir à Saint Seiya, au Chevalier du Zodiaque, initialement c'était aussi une commande de Bandai qui voulait vendre des figurines.
Tout à fait. Alors, quand on parlait tout à l'heure de voix royale, comme je citais, Hiroki Goto, le rédacteur en chef du Shonen Jump, le magazine dans lequel était publié Saint Seiya, a sorti récemment un livre dans lequel il témoigne de sa carrière. Et quand il parle justement de Saint Seiya, il explique qu'il ne comprenait pas au début pourquoi Kurumada prenait autant de temps à expliquer que voilà, l'armure de Pégase, par exemple, si vous regardez, ce sont les oreilles qui vont partir, qui vont se déplacer pour faire le casque ou une petite tiare. Et donc, il prenait la peine d'expliquer comment chaque armure pouvait se transformer d'une espèce de sculpture d'animal totémique représentant la constellation à une armure stricto sensu. Et il a très très vite compris quand il a vu arriver les premiers goodies. Il a fait, mais effectivement, c'est radical. Ce type a pensé en amont aux produits dérivés, et cette idée même du fait qu'elle était incluse dans l'histoire et qu'elle fait partie de l'ADN de Saint Seiya, évidemment, tous les gamins ont voulu se jeter dessus.
Des figurines qui étaient hors de prix.
Hors de prix, et je me permets de rajouter un petit détail par rapport au fait qu'on a des héros qui sont assez androgynes, puisque c'est un thème qui va revenir, je pense, tout au long de l'émission, pour expliquer très très brièvement l'univers de Saint Seiya à ceux qui n'auraient jamais lu ou vu un épisode de cette série. En gros, vous avez 3 dieux qui dominaient la Terre. Je vous évite vraiment tout ce qu'il y a avant. Il y a eu Zeus, Hadès et Poséidon, qui donc chacun avait le ciel et la Terre, les enfers et les océans. Et puis un jour, Zeus lui a dit « Ben moi je me barre, j'en ai marre, je pars en vacances, tiens Athéna, ma fille, je te laisse les clés de la maison. » Et à partir de là, il y a vraiment une espèce de guerre de territoire entre les trois, et donc c'est d'abord Poséidon qui s'est pointé avec des putains d'adversaires qui étaient les Marinas, qui sont arrivés, qui ont rasé littéralement la Terre, et ils ont battu mais presque toute l'espèce humaine, et ce qui fait que Athéna, pour pouvoir récupérer sa Terre, n'avait plus que des adolescents à qui confier, envoyer au combat. Donc c'est pour ça qu'elle a créé des armures afin que les adolescents contre les hommes surarmés, on va essayer quand même de pouvoir les défendre un tout petit peu. Et c'est de là que ça part. Et en fait, tout Saint Seiya est basé sur ces guerres saintes, ces guerres entre les dieux qui reviennent tous les 250 ans approximativement. Et quand on commence Saint Seiya, le manga ou l'animé, on découvre donc Seiya qui va récupérer l'armure de Pégase au terme de son entraînement et en devenant chevalier de bronze, va découvrir un peu ce que ça représente être chevalier avant de découvrir ce que ça peut être que vraiment une guerre sainte.
Et Elsa Gambin, vous avez découvert les chevaliers du zodiaque à quel âge?
Au Club Dorothée, donc je pense que c'était au début des années 90, même s'il a commencé à être diffusé avant, je crois, en 88, quelque chose comme ça. Je ne regardais pas ça à 6 ans. Mais un petit peu plus tard, effectivement. Et c'est vrai que Mathieu a raison, on ne l'a pas assez répété pour les auditeurs. Et c'est qu'avec le recul, je pense que j'en suis rendu compte, mais ils sont très jeunes. Ils ont,
ils ont 13 ans. Ils ont été vieillis dans l'animé légèrement.
Exactement.
Les voix sont un peu plus.
Ils ont 13-14 ans, effectivement, quoi. Et on a déjà parlé d'androgynie, mais je pense que c'est ce qui participait pour moi à une identification des personnages en tant que fille, parce que je pense qu'il faut en parler quand même, parce que j'ai pas d'amis IE qui ont regardé Les Chevaliers du Zodiac autant que moi. Donc ça ne fonctionne pas avec tout le monde a priori. Mais je pense que ce caractère androgyne fait que je pouvais m'identifier. D'ailleurs, je m'identifiais aux hommes dans ce dessin animé et pas aux femmes. Et pourtant, il y en a un peu. Je ne sais pas si on aura l'occasion de
oui, parce que
d'en parler un petit peu. Mais
les femmes chevaliers ont pour particularité dans l'univers de Kurumada d'avoir un masque.
Exactement.
Parce que c'était pour être conforme à cette idée que ben voilà, dans l'Antiquité, les femmes n'allaient pas au combat ou elles devaient le faire cacher. Et si d'ailleurs il y a ce côté très romantique
oui.
Développé dans l'animé
oui,
et le manga, c'est qui est que si un chevalier voit le visage d'une femme chevalier, soit elle doit le tuer,
c'est ça,
soit
elle en tombe amoureuse.
Elle en tombe amoureuse.
Exactement. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec Shaina. Voilà, qui ne sait pas sur quel pied danser au début, donc elle cherche à tuer Seiya tout le temps et finalement. Qui finit par lui avouer qu'elle est amoureuse de lui et que ce n'est pas possible. Et ce côté romantique, alors, ça, c'est un peu genré de dire ça, mais ça peut participer, je pense, à ce que des filles aient apprécié aussi ce dessin animé, en plus de l'androgynie de certains personnages. Mais moi, du coup, je ne m'identifiais en aucun cas ni à Saori, qui est pourtant magnifique.
Et qui commence en étant véritablement très très désagréable. C'est
en plus,
une petite fille gosse de riche.
Gâtée, tout à fait.
Elle martyrise les orphelins dont s'occupe son grand-père. Je mets des guillemets autour de grand-père. Et oui, c'est pas du tout une figure positive telle qu'elle est présentée au commencement de la série.
Pas du tout. Elle le devient après. Évidemment, c'est quand même la réincarnation d'Athéna. Elle a un cosmos qui transcende quand même tous les autres, y compris ceux des Chevaliers d'Or, enfin un cosmos énorme. Mais effectivement, elle n'est pas du tout agréable au début. Mais elle est, c'est bête de dire ça, mais quand on est très jeune, on regarde ça, elle est très belle. Et l'animé l'a vachement bien transcendée aussi, avec ses cheveux mauves, très longs, elle est magnifique. Et Shaina et Marine, qui sont des femmes fortes, qui sont des Chevaliers d'Argent, du coup, tous les deux, qui sont des femmes puissantes, bah, c'est pas à elles que je m'identifiais non plus, finalement. Donc je pense que c'est ça aussi la force, peut-être, de ce manga.
Alors nous sommes toujours avec les journalistes Mathieu Pinon, Elsa Gambin et le rédacteur d'Animeland Clément Leduc pour parler de Saint Seiya. Et c'est vrai que je dis que je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant Saint Seiya, saurez-vous y répondre? Les chevaliers d'Athéna sont choisis parmi des jeunes gens à qui l'on apprend le sens du devoir, le sacrifice et l'importance du collectif. Vous croyez que les chevaliers du Zodiac sont l'inspiration d'Emmanuel Macron quand il a lancé le service national universel?
Je pense qu'ils ont plus inspiré les émissions de type Top Chef et Master Chef parce qu'ils balancent des pelles à la tarte à défaut de balancer des tartes à pelles.
Incroyable, quel talent Mathieu Pinon. Yoga, le chevalier du cygne, arrivait à abaisser la température au zéro absolu. Quand on a ce genre de pouvoir, est-ce qu'on croit au réchauffement climatique?
Alors moi j'adore yoga. Oui, je pense qu'il aurait cru tout à fait au réchauffement climatique.
Parce que c'est quelqu'un de bien.
C'est quelqu'un. Non, vraiment. Oui. Non, c'est trop d'émotion d'en parler, mais yoga.
Non, mais oui, yoga qui avait sa maman qui reposait dans un bateau.
Je savais bien que vous alliez être moqueur avec yoga.
Qui reposait dans un bateau au fond de l'océan sous la calotte glaciaire.
Mais je rappelle quand même que c'est aussi ce qui fait sa force
finalement,
cette sensibilité.
Mais son maître, au bout d'un moment, il l'a calmé.
Il
a fait couler le bateau.
Il l'a calmé, Camus du Verseau. Mais Camus du Verseau, c'est aussi, il reconnaît à la fin quand ils meurent tous les deux pendant le combat que finalement, c'est aussi ce qui le rendait plus humain et moins froid, son genou.
Oui. D'ailleurs, il descendait la voir en apnée. Hein.
Tout à fait. Oui, il lui apportait des roses, tout ça.
Des roses à la bouche, s'il vous plaît.
Dernière question. Masami Kurumada a déclaré qu'il était incapable de dire qui était le chevalier d'or le plus puissant. Mais en vrai, on sait tous que c'est la Vierge.
J'en connais un qui est né sous le signe de la Vierge. Et ben, je pense
non,
que
je suis Sagittaire.
Et ben, je pense que c'est le Sagittaire, et tout simplement parce que Masami Kurumada est né sous le signe du Sagittaire. C'est pour ça qu'il en a fait l'armure centrale parmi les 12 chevaliers d'or au début, eux-mêmes sur le restant de l'intrigue.
Et là, sous couvert d'une conversation anodine, je sais qu'il y a 252 tweets qui vont arriver en disant « Mais comment vous avez... C'est évidemment le taureau! Non, c'est le gémeau! »
C'est le gémeau.
Bref, c'est une bataille qui n'en finira jamais.
C'est le vieux maître Doko des 5 pics, la ferme tout le monde.
Oui, allez, mais ça, on est d'accord.
Allez,
on est d'accord,
c'est on fait Doko. Une nouvelle pause musicale, on va écouter Roméo Elvis avec « Soleil ».
Je pensais toujours au PS que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix depuis que je suis avec toi. avec toi. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Je regarde plus jamais l'heure, sauf pour savoir quand t'arrives. T'es la seule chose dont j'ai peur, la première place dans mon cœur. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh, comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh, comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi.
L'amour est un idéal, mais je suis un idéaliste. Je peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise. Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo. J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise. Depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, 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 toi.
Le soleil renaît dans ma vie. 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 T'es un petit croco. Le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo. Le soleil renaît dans ma vie. Et oh, comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh, comme ça, regarde tout droit.
C'était Roméo Elvis avec Soleil.
Vous écoutez Blockbuster sur France Inter avec Frédéric Sigrist.
Oui, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Je reçois enfin l'armure.
Je dois te mettre en garde, Seyard.
Ah, ah.
Depuis toujours, les chevaliers ont protégé Athéna et combattu pour la justice. L'armure sacrée ne doit être revêtue qu'au service de la justice et ne doit jamais être portée à des fins personnelles.
Nous sommes toujours avec les journalistes Mathieu Pinon, Elsa Gambin et le rédacteur d'Animeland Clément Leduc pour parler de Saint Seiya, les chevaliers du Zodiac en français. Alors on a parlé de yoga, on a parlé de Seiya, mais il y a également Shiryu. Shiryu du dragon, avec son tatouage de dragon qui apparaît à chaque fois qu'il... Il laisse déployer son cosmos et qui faisait remonter cette cascade à contre-courant. Et puis lui aussi qui a une belle histoire d'amour.
C'est l'un des rares à avoir une histoire d'amour avec, avec Shun. Enfin, en tout cas.
Oui, enfin avec Shun Rae.
Shun a une histoire d'amour aussi, mais c'est vrai que la plus présente, c'est celle de Shiryu. Elle a accompagné Shun Rae, il l'a accompagné pendant son entraînement, voilà, adopté par le maître des cinq pics, Doku. Et oui,
qui ressemble à un Yoda violet,
tout violet.
On dirait un mini clou avec un chapeau de paille
ou une espèce de grand schtroumpf encore plus rachitique et plus mauve que bleu.
Il y a eu plein de théories là-dessus, ouais. Mais Shiryu, c'est quand même, ouais. Il est quand même sublime. Je dis pas en tant que femme là. Non, je disais sublime en tant que chevalier.
Là, elle a eu un crush.
Non, mais il est quand même sublime en tant que chevalier et en termes de loyauté. On est quand même, au top en termes de sacrifice.
C'est un chevalier qui crève les yeux,
se crever les yeux. Il se crève les yeux
pour sauver ses amis.
C'est ça, pour sauver
ses amis contre
énorme,
la méduse Percy, qui a un pouvoir de pétrifier les gens dans la pierre. Et le seul moyen pour le vaincre, on peut pas se cacher derrière son bouclier éternellement. Il est obligé de se crever les yeux pour pouvoir le vaincre avec la force d'Athéna toujours. central pour détecter le cosmos de l'adversaire.
C'est ça, il devient aveugle par amitié quand même, c'est énorme.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que cet aspect scarification personnelle très très forte chez les chevaliers, en préparant cette émission, je me disais qu'il y avait une sorte de parallèle à faire avec la passion du Christ. Ça peut sembler étonnant, mais je trouve que le parcours des chevaliers, c'est un peu la passion du Christ destinée aux jeunes...
Le terme japonais des chevaliers zodiaques, c'est saint à la base, donc il y a une corrélation en effet christique. Mais ça, c'est le propre de l'hypermythe qu'a créé Masami Kurumada en incluant tout plein de bouts de mythologies différentes. Et forcément, le côté christique revient forcément. Oui. Parce que le sacrifice.
La violence a été édulcorée un peu dans l'animé. Ouais. Forcément, quand il est sorti en animé, après, on sait bien, le Club Dorothée, il faisait couper des trucs par des psychologues, tout ça, parce que voilà. Mais il y a quand même des corps déchiquetés, des bouts de corps qui se baladent plus dans le manga, quoi.
Mais justement, Saint Seiya a constitué une des premières rencontres entre le public français et l'animation japonaise. Et si aujourd'hui d'énormes progrès ont été faits en la matière, hein, la preuve c'est qu'on peut faire une émission où on traite de Saint Seiya, on imagine il y a 10 ou 15 ans ça n'aurait absolument pas été possible, force est de constater qu'à l'époque, les animés, eh bien il y en a, ils aimaient pas. J'aime pas.
C'est violent, cruel, débile comme souvent les dessins animés japonais, mais les enfants en font dingue.
Il faut dire que c'est une claque pour le porte-monnaie familial lorsqu'un enfant désire un chevalier du zodiaque. Entre 2900 et 5000 francs pour un monstre en plastique, mieux vaut photocopier.
Bref, les chevaliers du zodiaque vous prennent la tête et celle de vos enfants, et les seuls à qui ça promet un avenir confortable sont les marchands de jouets et les vendeurs de photocopies.
Ah, les chevaliers du zodiaque, il y a une musique sur les chevaliers du zodiaque. Ça fait comment là?
Oh, elle est stupide.
Elle est stupide, mais ça fait comment?
J'ose même pas le dire.
T'oses même pas le dire?
Trop stupide.
Évidemment, on ne pouvait pas faire une émission consacrée aux chevaliers du zodiaque sans entendre Bernard Minet. Bernard Minet, hélas, qui a absolument tout chanté à cette époque, mais vraiment tout, en ayant sur les mêmes accords d'ailleurs, tout était chanté sur les mêmes accords. Mais alors, revenons sur ce débat concernant la violence des chevaliers du zodiaque, parce que c'est quelque chose qu'on a entendu énormément. Ensuite, le CSA, sous la pression de certaines forces politiques, a même censuré, mais comme des sauvages, certains épisodes. On est passé de 25 minutes d'épisode à tout d'un coup 12 ou 10. On comprenait même plus ce qui se passait. Quelle est l'origine de cette incompréhension sur le public destiné, à qui étaient destinés les chevaliers du zodiaque?
C'est une excellente question à laquelle j'ai toujours pas la réponse 30 ans plus tard, parce que comme l'a si bien dit Elsa et Clément, surtout par rapport à l'hypermythe, Kurumada est vraiment allé piocher dans beaucoup de religions. On parle tout le temps de rapport à la religion grecque, enfin la mythologie grecque, mais Shaka, le fameux chevalier de la Vierge tout à l'heure qu'on évoquait, renvoie directement au bouddhisme.
Il y a
tout le côté Asgard avec la mythologie nordique, même si c'est uniquement lié à l'animé et pas au manga. Donc il y a vraiment
un espèce de gloubi-boulga.
Et on peut presque plus voir dans le sanctuaire une espèce de version modernisée du Golgotha plutôt que de l'acropole, complètement avec ce chemin de croix que doivent accomplir les chevaliers. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, parce que le chemin de croix du Christ dans la religion chrétienne est vraiment marqué par la violence, la souffrance qu'il faut atteindre pour pouvoir avoir la transfiguration plus tard. Et là, on est vraiment dans le cas du Neketsu, où dans l'abnégation totale, on est même prêt à faire sacrifice de son corps pour pouvoir se transcender et aller encore plus loin. Et puis, quand on lit les écrits de la mythologie grecque, quand on lit l'Iliade, quand on voit un type qui, après en avoir tué un, il l'accroche par les talons sur son char pour faire le tour de la ville de Troie, pour montrer aux autres, regardez le cadavre, ce que j'en fais. Enfin, c'est extrêmement violent. Et on va dire aux enfants, ah ben non, regarde pas les chevaliers du zodiaque, c'est crétin, il y a du sang, lis plutôt l'Iliade. Non, c'est alors peut-être parce que c'était très hétérodoxe et que ça respectait pas les dogmes de chacune de ces religions pour avoir ce gloubi-boulga final. Peut-être que c'est ça qui a fait que ça a pu gêner certaines personnes. Peut-être que le fait qu'un dessin animé avec du sang, c'est inconcevable. Mais sur le fond, on est dans vraiment tout à fait dans l'esprit des mythes anciens. Et les mythes anciens, bah, c'était pas super, super joyeux. Hein.
Après, Elsa Gambin.
Non, mais je pense que c'était au-delà des Chevaliers du Zodiac, de toute façon, ce débat sur la violence à ce moment-là dans les mangas.
Les Chevaliers du Zodiac étaient particulièrement visés.
Mais c'est le premier, premier qui est arrivé sur le club de Dorothée aussi.
C'est pour ça. Mais après, il y a, enfin, je veux dire, Dragon Ball et Ken le survivant, enfin, on est quand même aussi dans du bien trash. Hein. Et puis, dans mon souvenir, ils achetaient au kilo les mangas à cette époque-là au club Dorothée. Et du coup, je pense, ils visionnaient pas tout, enfin, ce qu'on raconte. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se sont fait taper sur les doigts par des parents, le CSA et tout. Et après, ils ont fait appel à des psys, effectivement, pour recouper des épisodes.
Oui, parce qu'en fait, acheter des séries en gros au Japon coûtait beaucoup moins cher que de les faire venir des États-Unis ou de l'Europe.
C'est même plus compliqué dans ce cas-là très précis. On va essayer d'être très très bref parce que les Japonais commençaient déjà à être habitués à ce que les Français viennent les voir même les Européens viennent acheter du dessin animé. Et quand en 87, il y a eu le lancement du club Dorothée, que Dorothée a quitté Antenne 2 pour passer sur TF1. Juste en face, il y avait la 5 qui venait d'arriver et qui avait une cargaison monstrueuse de dessins animés déjà japonais. Et qui plus est, la 5, c'était entre guillemets spécialisée sur un créneau qui était gentil. Donc on avait les dessins animés de la Nippon Animation qui étaient adaptés de romans pour jeunesse et toutes les comédies romantico-sportives.
Jeannet Serge,
Olivier Tom, Lucille Labouré, Rock'n'Roll, etc. Et donc TF1 a dû se dire, nous on va partir sur une case un peu plus action pour le faire. Mais seulement entre juillet 87 et septembre 87, ils ont vraiment eu 2 mois, littéralement, pour aller au Japon, récupérer les Betamax, commencer à regarder les Betamax et faire le tri entre les séries qu'ils pouvaient choisir. Ça a donc été fait, mais super vite. En genre, on regarde le premier épisode et ça suffira pour déterminer si on prend ou pas.
Et c'est ce qui a mené à des incompréhensions, notamment sur Shun, qui a un visage androgyne.
Et qui était doublé par une femme.
Doublé par une femme
dans les premiers épisodes. Donc souvent,
ça menait à des incompréhensions comme ça.
Et alors, pour revenir sur cette analogie qui a été faite avec l'Iliade ou l'Odyssée, il y a aussi une singularité dans Saint Seiya, c'est que c'est une série très premier degré. Contrairement à Dragon Ball, il y a très très peu d'humour. C'est-à-dire que les personnages ont des sentiments exacerbés qu'on retrouve dans des tragédies grecques, etc. Il y a le dépassement de soi très très fort. Et il n'y a pas véritablement de méchant. C'est-à-dire que le rival, le chevalier qui est en face, a toujours une part de rédemption en lui. C'est-à-dire qu'il peut perdre le combat, mais au lieu de mourir dans la famille, il va reconnaître les valeurs de celui qu'il a terrassé. Et il n'est pas rare de voir ces personnages, ces jeunes gens, ces jeunes garçons, pleurer sur la défaite de leur adversaire.
Alors c'est un peu faux pour les chevaliers d'argent. Qui sont très mannequins.
Oui, voilà. Et les chevaliers d'or.
À partir des chevaliers d'or, on creuse un petit peu plus la psychologie et on creuse vraiment cela pour moi, la partie Asgard où les méchants, entre guillemets, ont leur histoire et on se prend d'affection pour eux, en fait. Et je pense que c'est ce qui a, je pense, plus beaucoup de monde, c'est que c'était pas manichéen. Il y a des vraies valeurs, le dépassement de soi. Contrairement à Dragon Ball où on est dans la recherche de puissance pure, là, on était dans le don de soi. Et je pense que c'est ce qui a rassemblé beaucoup de monde. Au niveau des valeurs, quoi.
Ouais, oui, c'est ça. Il y a tout. Il y a des sentiments. Il y a des sentiments filiaux. Enfin, voilà, on le voit bien entre Doko et Shiryu, entre Camus et Yoga. Voilà, il y a tout ça. Il y a du romantisme. On l'a dit tout à l'heure avec ces femmes qui sont amoureuses. Mais enfin, ils sont pas tout blancs non plus. Il y a une ambiguïté des fois entre Seiya et Saori. Enfin, voilà, c'est quand même pas. Donc, effectivement, il y a tout ça plus les valeurs dont on a mille fois parlé. Effectivement, l'amitié, le don de soi, le dépassement de soi, etc. Donc, effectivement, tout le monde pouvait s'identifier finalement quelque part. C'est beau, hein.
Je voulais rajouter une dernière chose très brièvement. Faut pas oublier non plus que dans la mythologie, dans les mythes anciens, chaque personnage est vraiment presque fonction, tout du moins il a une caractéristique qui va le définir. Et le titre japonais Saint Seiya, je préfère le titre français qui est les Chevaliers du Zodiac, puisqu'on a vraiment un groupe où chacun des personnages va représenter une facette,
un archétype
de ce que doit être un bon garçon, un bon être humain plus tard. Et je pense qu'on pourra revenir là-dessus après la petite coupure qui arrive, je le vois ajouter.
Dites-moi, monsieur Kuramata, vous nous avez mis un petit peu à la bouche, là, si vous dites qu'il y a une suite en bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu de l'histoire, quelque chose, un petit peu?
Il y aura l'arrivée de Hadus, l'empereur de la mort, qui va s'unir à Poséidon pour livrer une immense bataille contre les chevaliers et Athéna, essayèrent avec l'aide de Zeus et ses saints qui vont tenter sauver la Terre.
Ah d'accord, non mais dis donc, est-ce que vous vous rendez compte de la chose incroyable qui nous arrive là? Nous sommes les seuls au monde à connaître la suite des Chevaliers du Zodiac.
Même les Japonais ne sont pas au courant?
Non, absolument, nous sommes les premiers.
On est si bien que Dorothée.
Et on est aussi les derniers, parce que cette suite, telle qu'elle a été présentée par Masami Kuramada, n'a jamais été faite sous cette forme, du moins. Mathieu Pinon.
En animé ?
Mais c'est-à-dire, oui, Zeus qui revient...
On l'attend encore, c'était abordé dans le manga, mais je pense qu'on ne l'aura jamais, puisque maintenant Kurumada préfère largement décliner son concept sur des spin-offs, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on
des
va très vite expliquer qu'il y a Saint Seiya, le Chevalier du Zodiaque, que tout le monde connaît, et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on voit fleurir des Saint Seiya épisodes G,
Omega,
Soul of Gold.
Masami Kuramada continue une série qui s'appelle Next Dimension.
Next Dimension.
Qui est, du coup, la suite officielle.
Voilà, où Seiya est devenu Chevalier d'Or, et c'est un nouveau qui prend le relais en tant que Chevalier Pégase.
Oui, parce qu'il y a eu Lost Canvas qui était. Le préquel.
Oui.
Et du coup, au bout d'un moment, il a vu le succès, il s'est dit bon, je vais reprendre, je vais mettre la préquel et une suite en même temps. Enfin, lui, il a tout mixé dans Next Dimension, ainsi.
Mais bon, à la place, on va avoir Netflix qui nous sort un truc. Donc
oui, justement, cool. Parlons-en très rapidement de cette série Netflix dont la bande-annonce a été diffusée il y a maintenant 15 jours. Qui déplace les chevaliers aux États-Unis. On voit Seiya faire du skateboard. Ils se battent dans le désert contre des chars, des tanks.
Des hélicoptères.
Sean est devenu
une femme.
Et
je pense que là, on touche vraiment du doigt le gros problème de cette adaptation qui n'a pas compris ce qu'est le manga à l'origine. Et puisqu'on en a pas mal parlé du personnage de Sean, qui est donc très androgyne.
Et on n'a pas parlé de son frère.
Et on n'a pas parlé de son frère. Ikki, lui, justement, représente la rédemption. Ikki est le premier vrai bad guy que vont affronter nos héros, puisque au début, il y a une espèce de tournoi avec l'armure du Sagittaire à gagner pour qui le remportera. Et Ikki vient voler l'armure du Sagittaire. Donc, ils finissent par le vaincre. Et Ikki se rend compte de son erreur. Et Ikki va être vraiment la rédemption. Mmh. Et c'est le bad guy qui est revenu.
Tout en restant un solitaire.
Ah, oui. C'est le ténébreux de l'équipe.
Ouais,
mais très très puissant. Et Ikki
s'est sacrifié enfant pour éviter que son petit frère Sean n'aille faire le pire entraînement possible pour un chevalier où tout le monde meurt sur l'île de la mort. Mais Sean, pour en revenir à ça, Sean est très important parce qu'il montre, comme j'expliquais tout à l'heure, chacun des chevaliers représente une facette de ce que doit être un bon être humain. Donc Seiya, ça va être un petit peu la témérité. Yoga, on a le côté...
Et puis la contestation de l'autorité aussi.
Voilà, Yoga, on a le côté un peu Oedipe mal réglé qu'il faut franchir. Et Sean apporte toutes les facettes qui vont être habituellement consacrés aux femmes, donc l'empathie, le pardon, et les mettre sur un homme.
Comment il y a plein de gens qui vont nous tomber
les
dessus
sur un homme, que... c'est très important parce que ça montre
coup,
que c'est pas
coup,
réservé
c'est
aux femmes.
Il faut
aussi avoir ça pour être un homme vrai. Voilà. Quelqu'un de bien.
C'était ça que vous vouliez dire,
non, mais c'est ça que je voulais le dire, mais ça passera. Mais non, mais on va me tomber dessus quand même. Mais du coup, je suis d'accord avec Mathieu, c'est complètement contre-productif. Effectivement, il est pacifiste, il essaye d'éviter le combat au maximum, c'est quelqu'un qui est sensible. Voilà. Et du coup, de fait, c'est lui qu'on va transformer en nana. Ça veut dire qu'on vient encore dire que ces qualités-là, ces traits de personnalité-là, sont pour une nana. Et bien, du coup, c'est complètement contre-productif. À la limite, moi, je suis pour bouger aucun chevalier du Zodiac. Mais ils auraient transformé Ikki en femme. Là, on aurait pu se dire, là, c'est disruptif, là. On y va, quoi. Mais finalement, non, ils assimilent encore ce caractère sensible et pacifiste à une femme. Donc, c'est complètement débile. On le dit. Hein.
D'autant qu'en plus, Sean, même s'il est pacifiste, même s'il refuse le combat, on le voit quand on lit le manga et qu'on suit l'animé, est potentiellement le chevalier de bronze le plus
fort.
Puissant.
Oui.
C'est
lui qui s'éveille au septième sens, le premier.
Oui, c'est le premier. Et en plus, c'est le sceau, enfin le réceptacle normalement de l'âme d'Hadès. Plus tard, on le découvre bien plus tard. Mais c'est aussi pour ça qu'il a une étoile particulière au sein du groupe.
D'accord, donc et là on peut dire, pour revenir sur l'adaptation future de Netflix, qu'on est à côté du hors-sujet total.
Ah mais il suffit, enfin le trailer prouve à quel point ils n'ont pas compris du tout.
Et alors en plus de ça, c'est laid.
Ça
pose un problème. Ah si, c'est laid quand même.
Alors il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Je trouve que pour une retranscription en 3D des chara-design, c'est réussi. Voilà. Juste graphiquement parlant.
Il y a
une bataille qui est en train de se profiler. Là, je vois Elsa Gambin développer son
côté.
Au niveau de l'animation, on pêche énormément. Les gens, à une époque, ont beaucoup critiqué le film La légende du sanctuaire. Finalement,
ils ont fait pire.
Donc,
c'était déjà
bon. Je trouve ça remet un peu.
Mais ça ne sert la 3D sont fâchés. Hein,
alors, rapidement, Saint Seiya a permis aussi l'introduction pour beaucoup, beaucoup de spectateurs à la mythologie. Mais il y a aussi des contresens énormes qui sont faits, notamment sur la figure d'Athéna. Parce que Athéna est présentée, on l'a entendu dans l'introduction, comme la déesse de la guerre. Or, chez les Grecs, Athéna, c'était une incarnation d'une facette de la guerre, parce qu'il y avait Arès pour les Grecs qui représentait la guerre brutale, qui laisse des morts un peu partout, et il y avait la guerre stratégique, celle où on ruse, où on établit une stratégie, où on développe les sciences, et c'est quelque chose, cette double dimension qui a été assez peu utilisée par le manga Saint Seiya.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je comprends tout à fait, on pourrait le penser, mais le côté Athéna, déesse de la guerre, qui est donc différente de Arès, la guerre bourrine, s'explique notamment dans le fait qu'elle refuse que ses chevaliers combattent avec des armes. Ils ont uniquement leur corps comme arme. Il y a uniquement Doko qui est un petit peu un cas à part, puisque la balance a six paires d'armes. Mais en dehors de ça, les chevaliers n'ont que leur point, enfin n'ont que leur cosmos et leur courage pour se battre.
Andromède a sa chaîne nébulaire quand même.
C'est pas faux.
Non, mais je vous laisse parler, je suis respectueux des invités, mais bon, il y a un moment.
À une ou deux exceptions près, dans l'ensemble, on est là-dessus. Et rien que ça, c'est justement le combat, on va dire, honorable, où on va droit devant son adversaire, on l'affronte de face, donc il n'y a pas de ruse, alors que Athéna est la déesse de l'intelligence également, comparé par contre à les marinades Poséidon, les mecs qui vont arriver, ils ont des épées, des glaives, s'ils pouvaient avoir des hélicoptères de combat comme dans le trailer, ils le feraient. Donc il y a cette nuance-là qui fait que non, Athéna, déesse de la guerre, c'est pas complètement occulté par contre.
Je vous invite à continuer à débattre de tout ça sur Twitter avec nous après l'émission, parce que là pour l'instant, on va écouter Tame Impala avec Borderline, et ensuite on joue.
C'était Tame Impala, Borderline, et maintenant on joue.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui, on a Romaric au téléphone. Bonjour Romaric.
Bonjour à tous.
Bonjour Romaric.
Alors, fan des Chevaliers du Zodiac?
Alors moi, depuis tout petit, je me rappelle avec émotion des épisodes que j'essayais de planquer pour pas que ma mère éteigne la télé quand c'était un peu trop sanglant, notamment ceux où Sirius crève les yeux. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'une Madeleine de Proust, en fait. Et comme tout le monde, j'étais traumatisé par mon Chevalier d'Or.
c'est lequel votre Chevalier d'Or préféré?
C'est le Chevalier d'Or des Poissons qui a été mal dessiné et qui a été mal compris, comme Sean.
Aphrodite. Je suis pas tout à fait d'accord avec
Aphrodite.
Ça.
L'élégance et la beauté.
Quand on parlait d'androgynie, justement.
Oui.
Alors, on va jouer. Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix.
Très bien.
C'est parti. Première question. Dans le manga et l'anime, les chevaliers féminins portent des masques. Pour quelle raison? Réponse A, parce que Masami Kurumada avait du mal à dessiner les personnages féminins. Réponse B, parce que le statut de chevalier était réservé à l'origine aux hommes. Ou réponse C, parce que dans la mythologie grecque, les femmes puissantes étaient représentées sans visage.
Bah, là, instinctivement, je dirais la réponse B.
Eh bien, c'est une bonne réponse, parce que le statut de chevalier était réservé à l'origine aux hommes. Alors, deuxième question. Quel personnage de Saint Seiya est devenu une femme dans l'adaptation prochaine de Netflix?
Ouais, le pauvre.
Alors?
C'est Sean,
évidemment. Ouais. Bonne réponse. Là, on a affaire à un professionnel, c'est un sans faute. Dernière question. Quel est ce personnage qui parle en japonais? On l'écoute. Alors?
Elle est pas facile, je suis là. J'hésiterais instinctivement, j'aurais dit Princesse Saori, mais ça me paraît infrasible.
Non.
Mais, malheureux. Allez, Seiyar, je vais tenter.
Allez, bonne réponse. Oh, on est passé à côté d'un drame. Romaric, vous avez gagné le livre Le mythe Saint Seiya au Panthéon du manga de Valérie Pressigou aux éditions Ferd.
Génial. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous d'avoir participé. À bientôt, Romaric.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Alors, très rapidement, j'aimerais quand même qu'on parle ou qu'on invite les auditeurs à écouter les albums de Seiji Yokoyama, qui est à l'origine des musiques de Saint Seiya, parce que les musiques, c'est aussi ça qui a fait le succès de cette série, Mathieu Pinon.
Il faut bien prendre en compte une chose, c'est que Yokoyama a reçu un prix qui a été, je ne sais plus en quelle année, mais c'était la bande originale qui touchait le plus d'argent. Si on faisait l'équivalent de la SACEM au Japon, celle qui a rapporté le plus de droits d'auteur. La bande originale de Saint Seiya a fait pour beaucoup dans le succès de l'animé en France, parce que déjà, ça, on ne l'avait pas changé, contrairement au générique. Et il y a de tout. Il y a de tout. Vous avez des adagios, vous avez des oratorios, il y a des mélopées qui sont chantées par une cantatrice, vous avez des morceaux de guitare électrique sursaturés, vous avez des cuivres qui pètent, ça peut être extrêmement dynamique, ça peut être extrêmement larmoyant. C'est une des bandes originales.
Les plus riches,
même pas d'animé, des bandes originales, tout simplement les plus riches qu'il m'ait été donné d'entendre. Et aujourd'hui encore, même si vous ne connaissez rien à Saint Seiya, que vous n'avez pas échoué du Zodiac, si vous écoutez la bande originale et que vous êtes un tant soit peu mélomane, vous serez conquis, quoi qu'il arrive.
Merci Mathieu Pinon, merci Elsa Gambin, merci Clément Leduc, merci d'avoir été avec nous pour parler de Saint Seiya. Comme toujours, les messages, c'est au 01 56 40 30 20 ou la page Facebook de l'émission. Voilà, ou sur le Twitter, hashtag Blockbuster FI. Et on se retrouve demain pour parler du roman d'anticipation qui s'est fait rattraper et même dépasser par le réel, 1984 de George Orwell.